Bonjour à tous, vous êtes sur Radio Campus Rennes 88.4. Bienvenue dans le Labomatique, votre émission dédiée à la vulgarisation scientifique. Et cette semaine, j'ai rencontré Étienne Bresciani, docteur en géosciences. Il travaille au sein de l'équipe eau et étudie l'écoulement de l'eau souterraine. Alors, quels sont les paramètres qui font varier les écoulements d'eau souterrains ? Étienne Bresciani est au micro de Radio Campus Rennes pour répondre à nos questions et nous parler de ses travaux de recherche. Étienne Bresciani, bonjour.
Bonjour.
Alors, vous êtes attaché temporaire d'enseignement et de recherche au laboratoire géosciences de Rennes. Donc, vous appartenez à l'équipe eau.
Ouais.
Et vous avez soutenu votre thèse en décembre 2011. Alors, donc votre travail portait sur l'écoulement de l'eau souterraine. Alors, est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus déjà sur ce sujet ?
Alors, les eaux souterraines sont un élément très important du cycle de l'eau, puisque c'est notamment par ici que transite une grande partie de l'eau qui se précipite sur les continents. Les rivières et les lacs dépendent en très grande partie des eaux souterraines, qui constituent leur alimentation majeure. Donc les eaux souterraines sont en fait l'eau qu'on trouve dans le sous-sol, dans les roches. Et donc ce sont des eaux qui sont présentes partout sous nos pieds, sur toute la surface des continents. Et ces eaux souterraines sont alimentées par les précipitations, donc en fonction du climat. Les précipitations qui arrivent à la surface du continent se répartissent en plusieurs compartiments. Il y a une partie qui est réévaporée directement, soit directement par évaporation due à la chaleur, soit on appelle évapotranspirée, donc c'est-à-dire transpirée par les plantes en fait, qui vont absorber cette eau et la redégager ensuite dans l'atmosphère. Ensuite, il y a une partie qui va s'infiltrer plus profondément dans le sol et qui va rejoindre ce qu'on appelle les nappes phréatiques.
Donc ça, c'est une grosse partie.
Et donc c'est une grosse partie, on considère que 2/3 de l'eau précipitée va en fait se réévaporer directement dans l'atmosphère, soit directement, soit par les plantes, et 1/3 va alimenter les eaux souterraines.
D'accord, donc ça rentre dans le cycle de l'eau.
Oui, tout à fait.
Et donc contrairement à ce que beaucoup pensent, l'eau qui ruisselle, ça représente une infime partie.
Il y a effectivement une idée reçue qui est que une grande partie des précipitations qui tombent sur les continents va ruisseler directement sur la surface du sol pour atteindre les eaux de surface, rivières et lacs. En fait, c'est en majeure partie, l'eau va aller dans les eaux souterraines. Et la partie qui ruisselle directement sur la surface du sol, c'est vraiment infime.
Alors, donc vous parliez de nappe phréatique. Donc ouais. Toute cette eau, elle atterrit dans une nappe phréatique. Alors, comment ça se présente ? On a l'image d'une grande cuve, mais alors est-ce que c'est vraiment ça ?
Alors c'est en fait une image assez fausse, qu'effectivement beaucoup de gens se représentent une nappe phréatique comme un gros réservoir d'eau. Alors c'est un réservoir d'eau, mais c'est un réservoir un peu particulier. On peut plutôt imaginer ça comme une grosse éponge, donc qui est constituée de la roche. La roche contient des pores, constitue un espace disponible pour stocker de l'eau. Et donc l'eau, en s'infiltrant dans le sol, va remplir ses pores, et c'est ce qu'on appelle une nappe phréatique.
D'accord, et alors les pores contiennent uniquement de l'eau, ou est-ce qu'il peut y avoir de l'air aussi ?
Alors dans la partie la plus proche du sol, on a effectivement un mélange d'eau et d'air, mais à partir d'une certaine profondeur, donc à partir d'une dizaine de mètres, en fait, les roches sont complètement saturées en eau. Donc il n'y a plus d'air dans les pores.
Et donc c'est là qu'on parle de nappe phréatique.
Exactement.
Dans la nappe phréatique, en fait, est-ce que l'eau, elle est statique ? Est-ce qu'elle, donc comme on parlait tout à l'heure de réservoir, est-ce qu'elle continue à bouger ?
Alors effectivement, elle n'est pas du tout statique, c'est un réservoir complètement dynamique qui est renouvelé en permanence puisque ces eaux souterraines font effectivement, comme on le disait, partie du cycle de l'eau. Donc comme tout élément du cycle de l'eau, il y a une circulation qui s'effectue. Donc les précipitations qui vont atteindre cette nappe phréatique vont ensuite migrer dans les roches pour se déplacer de manière un peu plus horizontale et pour finalement aller atteindre des rivières qui vont être éloignées de éventuellement plusieurs kilomètres ou même vont atteindre directement la mer.
Donc dans un premier temps, l'eau elle se dirige de manière verticale dans le sol et ensuite de manière plus horizontale, mais tout ça en 3D j'imagine,
voilà.
Pour se diriger vers les rivières ou les vallées ou les lacs.
Voilà, ou les lacs ou la mer, etc. Mais donc oui, c'est effectivement... Grossièrement, c'est ça. Effectivement, après, c'est un petit peu plus compliqué, il y a des subtilités. Les écoulements sont effectivement très 3D. Donc, une fois que l'eau atteint la nappe phréatique, c'est pas strictement horizontal, il y a encore une composante verticale importante. Et donc, l'eau peut atteindre différents niveaux de profondeur.
Alors, donc, les écoulements d'eau souterraine connaissent des variations donc selon différents paramètres. Alors, vous allez justement nous en parler. Quels sont ces paramètres? Est-ce que vous pouvez nous les présenter?
Alors, donc principalement, dans le milieu naturel, les eaux souterraines sont fonction de trois grands paramètres. Le premier, c'est le climat, puisque c'est l'origine de l'eau, issue des précipitations. Alors, il n'y a pas que les précipitations qui sont importantes, il y a aussi effectivement la température, dont on a un petit peu parlé, qui va contrôler le taux d'évaporation de l'eau. Donc, c'est quelque chose d'un élément important. Et donc, le climat, associé à la végétation aussi, puisque la végétation va, comme on l'a dit tout à l'heure, prendre une partie de l'eau pour la transpirer. Ces éléments vont conditionner la recharge, on appelle ça recharge, des nappes phréatiques. Donc la recharge, c'est la quantité d'eau qui va finalement, effectivement, s'infiltrer dans le sol jusqu'à atteindre le niveau saturé en eau. Donc ça, c'est le premier élément. Le deuxième grand élément, c'est la géologie, puisque quand l'eau atteint les nappes phréatiques, les écoulements sont fonction des propriétés des roches. Si les roches sont très très compactes, l'eau va avoir du mal à s'écouler, donc on aura un milieu peu perméable. Peu perméable, ça veut dire que l'eau va circuler très lentement. Elle va quand même circuler, mais à une échelle de quelques mètres par an, éventuellement dans du granit. Et enfin, le troisième grand paramètre qui contrôle les écoulements souterrains, c'est la topographie de la surface du sol, donc l'altitude, le relief du sol. Cette topographie va contrôler en grande partie la direction horizontale des écoulements, puisque globalement, les écoulements souterrains vont être orientés vers les bas topographiques, c'est-à-dire les vallées.
Et alors, un relief qui a beaucoup de variations, par exemple, qu'est-ce que ça va engendrer ?
Alors par exemple, un relief qui a beaucoup de variations, donc s'il y a beaucoup de vallées, on va avoir beaucoup de rivières qui vont être éventuellement plus petites que si on a un relief où il y a un peu moins de variations. Dans ce cas, tous les écoulements souterrains vont être orientés vers l'unique vallée et qui va former éventuellement une plus grande rivière.
D'accord. Et là, il me semble qu'il y a un quatrième petit paramètre.
Alors il y a un quatrième paramètre effectivement, qui n'est pas un paramètre naturel, mais qui rentre effectivement en compte et qui est très important dans nos études. Il s'agit du pompage. Le pompage, pourquoi ? Alors, parce que les eaux souterraines sont une ressource en eau potable, très importante dans le monde entier. En France par exemple, 2/3 de l'alimentation en eau potable provient des eaux souterraines. Et donc ce pompage est un paramètre à prendre en compte aussi quand on s'intéresse aux circulations des eaux souterraines, puisque le pompage en soi va modifier les directions d'écoulement.
Alors Étienne Bresciani, vous vous êtes intéressé à un type de géologie particulier, donc il s'agit des domaines de socle. Alors de quoi s'agit-il ?
Alors les domaines de socle sont un type de géologie constitué de roches plutôt dures, on appelle ça comme ça. C'est un type de roche qu'on trouve notamment en Bretagne, par exemple, puisque la Bretagne est composée en grande partie dans le sous-sol de granit. Et donc ce type de roche, tel que le granit, est a priori connu pour être assez peu perméable. On imagine le granit est très très compact et donc l'eau peut difficilement passer dans du granit. Cependant, on s'intéresse, nous, en recherche à ce type de milieu, puisque on s'est aperçu qu'ils peuvent, dans certaines configurations, apporter une ressource en eau souterraine importante, notamment lorsqu'on a la présence de grandes failles issues, par exemple, de mouvements tectoniques. Et donc, dans ces failles, l'eau peut s'infiltrer beaucoup plus facilement, et donc on obtient de manière assez localisée, en fait, des circulations assez importantes en eau qui peuvent être exploitées.
Et alors, ce type de géologie, c'est considéré comme stratégique ou pas pour du pompage, par exemple ?
Alors, ce type de milieu est a priori peu reconnu et peu exploité, du moins en profondeur, en fait. C'est parfois exploité en surface, parce qu'on a une zone proche de la surface qui est un peu plus altérée et donc dans laquelle l'eau peut circuler plus facilement. Mais les eaux qui circulent plus profondes, a priori, sont très peu exploitées. Et c'est pour ça que ce n'est pas réputé pour être une ressource stratégique. Mais c'est là où nous, on fait de la recherche, c'est que, vu que les fracturations tectoniques peuvent aller très profondes, eh bien, si on arrive à intercepter ces fracturations par un puits de pompage, on a éventuellement une bonne chance de trouver une ressource suffisante.
D'accord, donc vous cherchez à savoir si c'est utile de les exploiter finalement.
Voilà, alors ce qu'on cherche à savoir, c'est principalement dans quelle configuration géologique, quel type de fracturation ou de contact tectonique, etc., on va réussir à trouver cette ressource. Alors je parle de fracturation tectonique, mais il y a aussi effectivement tous les autres paramètres dont on a parlé tout à l'heure, tels que la topographie, le climat, etc. Moi, mon travail, ça va être d'essayer d'évaluer dans quelle configuration, donc dans quelle gamme de paramètres, de ces trois paramètres, on va espérer trouver une ressource suffisante.
On s'accorde une petite pause musicale, on écoute Amadou et Mariam avec le titre Dougou Badia. Alors, en quoi a consisté votre travail durant ces 3 ans de thèse? Est-ce que vous êtes allé sur le terrain, par exemple?
Alors, malheureusement, moi, j'ai eu peu l'occasion d'aller sur le terrain. J'y suis allé quelques fois, mais ça se compte sur les doigts d'une main, par curiosité, comme ça. Mais mon travail consiste plutôt à faire ce qu'on appelle de la modélisation. Donc, en fait, c'est un travail dans lequel je vais utiliser des équations mathématiques, qui vont décrire comment s'écoule l'eau dans les roches. Donc à partir de ces équations, on arrive à prédire, en fonction des différents paramètres, comment l'eau va s'écouler dans les roches.
Ça se présente sous forme de logiciel ?
Alors les équations, donc à la base, ce sont des équations mathématiques, bien sûr. Mais effectivement, pour résoudre ces équations, on a besoin de logiciels, puisque ce sont des équations qui sont relativement complexes. Et donc pendant ma thèse, j'ai effectivement travaillé à développer un logiciel qui permet de résoudre ces écoulements. Alors j'ai travaillé, donc j'ai développé dans un logiciel en fait qui existait déjà, mais vu que ce sont des équations compliquées, on a besoin de nouvelles techniques de résolution numérique, et donc ça a été une des parties de ma thèse, de développer de nouvelles méthodes numériques pour résoudre ces équations. Ensuite, une fois qu'on a ce logiciel qui fonctionne, on va pouvoir faire ce qu'on appelle des simulations pour réaliser des études paramétriques. L'idée, c'est d'exécuter un très grand nombre de simulations avec des valeurs de paramètres différents, donc telles que la perméabilité des roches ou un type de topographie. Et en fonction de ces paramètres, on va donc faire tourner le logiciel et on va obtenir des résultats qu'on va pouvoir analyser. En analysant ces résultats, on va réussir à identifier les paramètres qui sont clés pour un résultat d'intérêt donné. Par exemple, je vais pouvoir faire évoluer l'orientation d'une fracture pour voir l'influence que ça a sur les sens d'écoulement. Par exemple, voir si les écoulements vont être plus orientés vers une rivière ou une autre, en fonction de l'angle de la fracture.
D'accord. Et alors, est-ce que du coup, de votre côté aussi, vous participez à l'amélioration ou l'évolution du logiciel? Il est terminé, en fait, ce logiciel, ou il continue d'évoluer
Alors, ce logiciel est en constante évolution. En fait, on appelle ça une plateforme logicielle, plus qu'un logiciel en soi, puisque c'est en fait un ensemble d'outils numériques et informatiques qu'on est en train de développer pour répondre à des questions de recherche. Donc, puisque ce sont des questions de recherche, en fait, on a constamment besoin de nouveaux outils pour pouvoir aborder ces nouvelles questions. C'est des outils qui n'existent pas forcément. Et donc, en fait, c'est une plateforme en constante évolution.
Vous nous disiez tout à l'heure que vous n'alliez pas forcément sur le terrain, mais j'imagine que vous travaillez directement avec des gens qui y vont. En quoi ça consiste, les études sur le terrain?
Alors, les études sur le terrain consistent notamment à faire des puits d'observation. Donc on va faire des puits dans lesquels on va pas pomper, on va juste s'en servir comme puits d'observation. Par exemple, pour pouvoir mesurer le niveau des nappes. Donc ça, c'est un type de mesure, le niveau des nappes, qui va nous servir ensuite éventuellement à calibrer nos modèles numériques. D'autres données qu'on peut récupérer, ce sont par exemple les sens d'écoulement. C'est quelque chose d'assez difficile, mais on peut faire ce qu'on appelle des essais de traçage. Un essai de traçage, ça consiste à injecter de manière volontaire un certain élément dans les eaux souterraines, un élément qui évidemment est inoffensif pour l'environnement, mais on va pouvoir essayer de le suivre ensuite dans l'environnement en regardant des points de mesure dans d'autres puits ou par exemple dans une rivière, et on va essayer de regarder combien de temps met cet élément chimique qu'on a injecté à aller... Combien de temps il met pour aller d'un point A à un point B.
Il existe un grand nombre d'implications en lien avec vos travaux de recherche. Alors concrètement, quelles sont ces implications?
Alors concrètement, si on regarde par exemple un pompage d'eau souterraine, on va avoir plusieurs questions liées au fait de pomper les eaux souterraines. Par exemple, quelle est la durabilité de ce pompage dans le temps? On sait qu'aujourd'hui, par exemple, on peut pomper une certaine quantité d'eau dans une nappe phréatique. Est-ce que dans 5 ans ou 10 ans, on va pouvoir pomper la même chose? Alors, savoir si on va pomper la même chose, c'est notamment en fonction du climat. Et du coup, quelque chose qu'on étudie, c'est l'impact du changement climatique sur les quantités d'eau qu'on peut pomper. Cette question de pompage est une question donc de durabilité dans le temps de la quantité d'eau disponible pour le pompage. Une autre thématique importante, c'est la thématique de la vulnérabilité de la ressource à des contaminations de surface dues par exemple à des activités industrielles. Et donc notre travail de recherche qui consiste à comprendre les sens de circulation souterraine peut servir à évaluer la potentialité du pompage à une éventuelle contamination d'origine de surface. Une autre grande problématique qui nous intéresse est celle de la vulnérabilité des eaux souterraines, puisque ces eaux souterraines vont être sujettes à d'éventuelles contaminations issues d'activités industrielles donc sur la surface du continent. Ces activités industrielles vont éventuellement générer des polluants qui vont être entreposés à la surface du sol. Et ces polluants vont être ensuite infiltrés par l'eau issue des précipitations jusqu'aux nappes phréatiques et vont ensuite être transportés, transférés dans ces nappes phréatiques, éventuellement jusqu'au point de pompage. Et donc, une des problématiques actuelles derrière ce problème, c'est la définition des périmètres de protection. Donc l'idée, c'est de définir autour d'un pompage un périmètre tel que dans ce périmètre, les activités industrielles vont être réduites. Et donc le travail scientifique qu'il y a à faire derrière, c'est savoir quand on pompe à un certain endroit et à une certaine profondeur, d'où vient l'eau qu'on a pompée. D'où vient l'eau, donc on appelle ça une zone d'alimentation. C'est-à-dire, si on imagine qu'on remonte toutes les lignes d'écoulement de l'eau à partir du pompage jusqu'à la surface, toute la surface délimitée ainsi, on appelle ça une zone d'alimentation. En trouvant cette zone d'alimentation, donc qui est fonction de tous les paramètres dont on a parlé, hein, cette zone d'alimentation, sa forme, son extension, etc., va être fonction de la géologie, du climat, de la topographie et du taux de pompage. Et donc une des problématiques actuelles en recherche, c'est de trouver les facteurs qui vont contrôler ces zones d'alimentation, notamment dans des milieux géologiques très complexes comme les domaines de socle que j'étudie. Enfin, une dernière application importante de mon travail, c'est d'évaluer quel est l'impact d'un pompage sur les ressources environnantes. Puisque l'eau qu'on pompe, évidemment, c'est une eau qui, finalement, ne va plus alimenter les rivières, par exemple, ou les lacs. Et du coup, ça a une conséquence évidente sur les écosystèmes qui sont liés à ces rivières. Et donc, un des objectifs de ma thèse, ça a été de regarder l'impact du pompage sur ces ressources. C'est-à-dire, lorsqu'on pompe, quelles sont les lignes d'écoulement qui vont être captées par le pompage, et du coup, où est-ce que l'eau pompée ne va plus se retrouver? Hormis la question de la gestion de la ressource, puisque les eaux souterraines sont un élément essentiel du cycle de l'eau, mon travail peut aussi servir à évaluer les ressources qui en dépendent, telles que le débit d'eau dans les rivières. Par conséquent, mon travail peut aussi servir à améliorer les modèles de prévision de crues ou de sécheresse en été. Une des thématiques actuelles de recherche est aussi celle plus liée aux gestions de territoire, puisqu'on est dans un monde où les activités, notamment industrielles, évoluent énormément, et les activités agricoles aussi. Une des questions qui se pose actuellement, c'est l'impact d'un changement d'occupation du territoire sur globalement le cycle de l'eau et en partie les eaux souterraines. Et donc un des objectifs de nos travaux, c'est aussi de savoir par exemple si on change complètement une politique de culture agricole dans une région donnée, on va changer la végétation, du coup on va changer la recharge possible des eaux souterraines. Et donc un des objectifs, c'est de savoir quelle est l'implication de ce changement sur les recharges des nappes phréatiques et du coup savoir la potentialité de l'exploitation pour en eau potable et aussi en aval de l'alimentation des rivières.
Alors on parle des fois de pénurie d'eau pour les années qui viennent, donc sachant que ça marche comme un cycle, hein, donc le cycle de l'eau, est-ce que c'est envisageable qu'on ait plus d'eau d'un moment?
Alors c'est envisageable, c'est effectivement un cycle, donc l'eau se renouvelle, mais l'eau se renouvelle pas forcément à la vitesse à laquelle on la pompe, donc ça c'est la première chose. Cependant en Bretagne par exemple, puisqu'on est en Bretagne, les précipitations sont assez abondantes et donc on a peu de risques de pénurie en eau. Par contre, on a plus le risque de dégradation des eaux souterraines. Notamment en Bretagne, on a un problème actuel qui est le problème de pollution par nitrate. C'est quelque chose qui est vraiment très problématique en ce moment. Les eaux de surface sont de plus en plus contaminées en nitrate. Et donc on est amené de plus en plus à considérer ces ressources en eau plus profondes. Et c'est notamment un des objectifs de mes travaux de recherche, puisque mes travaux concernent la potentialité d'exploiter ces ressources en eau profonde, même dans des domaines de socle comme on trouve ici. Actuellement en Europe, on a un texte phare qui guide en fait beaucoup de travaux de recherche. Ce texte, c'est la directive cadre eau. C'est un texte qui a été voté en 2000 et qui oblige en quelque sorte les États de l'Union européenne à mettre en œuvre tout un tas de solutions pour amener à la restauration de la qualité de l'eau, donc en vue de la sauvegarde de la bonne qualité des eaux en général. Et dans ce cadre, on s'intéresse aux eaux de surface, les rivières, les lacs, etc., et aussi aux eaux souterraines, de manière directe, puisque c'est une ressource en eau potable exploitable, mais aussi de par leur impact sur les eaux de surface, puisque les eaux de souterraines alimentent en grande partie les eaux de surface.
Et vous parliez tout à l'heure du changement climatique. Est-ce que vous avez une petite idée, justement, de ce qui peut éventuellement se passer dans les années à venir ?
Le réchauffement climatique, c'est effectivement une problématique de recherche aussi. Concernant le changement climatique, c'est effectivement une problématique qui nous intéresse, puisque le changement de climat va changer les apports de recharge en eau souterraine. Nous, on s'intéresse à la pérennité de la ressource en eau souterraine par rapport au changement climatique. Ce qui peut se passer éventuellement, c'est que si on a une recharge qui est plus importante, on va avoir des niveaux de nappe qui vont être plus élevés, et éventuellement, du coup, une ressource en eau plus importante. Si à l'inverse, les précipitations diminuent, on va avoir un niveau de nappe phréatique plus bas et des ressources en eau moins importantes. Ce à quoi on s'attend de manière peut-être plus probable en Bretagne, c'est plutôt à une conservation de la quantité de recharge moyenne au cours de l'année. Mais si on s'intéresse aux variations saisonnières, on va sans doute aller vers des saisons de plus en plus marquées, avec des précipitations plus importantes en hiver et une sécheresse plus importante en été. Et donc, la question du changement climatique, c'est pas simplement une question de savoir est-ce qu'il va pleuvoir plus ou pleuvoir moins, mais aussi une question de la variabilité intra-annuelle des précipitations et des conséquences sur les ressources en eau.
Eh bien, merci beaucoup.
Merci à vous.
C'était le Labomatique, merci de nous avoir suivis. Vous pouvez retrouver le podcast de l'émission sur le www.radiocampusrennes.fr. À la semaine prochaine pour un nouveau numéro du Labomatique. Bonne semaine à tous. Thank you.